Dans le chapitre 21 et 22 de l'Apocalypse, nous avons l'état éternel. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a un petit peu chevauché entre l'état, entre le royaume de Christ, le royaume millénaire, et le chapitre 21, donc l'état éternel, parce que le Nouvel Jérusalem se trouve sur les deux parties de l'existence, donc dans le royaume de Christ. Les immortels vivront dans la Nouvelle Jérusalem et dans l'état éternel, tous ceux qui sont donc sauvés et donc à ce moment-là immortels vivront dans la Nouvelle Jérusalem. Donc il y a certaines parties ici qui chevauchent un petit peu dans le chapitre 20, dont on n'avait aucun détail concernant la Nouvelle Jérusalem, et le 21 où on donne une explication de la Nouvelle Jérusalem. Il est bien dit au verset 1 qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il spécifie le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, la nouvelle existence à l'état éternel est différente. Donc, déjà, il y a de l'eau parce que l'eau, ça vient du trône et c'est l'eau spirituelle. C'est probablement c'est le Saint-Esprit qui va abreuver tous les croyants dans cet état éternel. Mais il n'y a pas besoin de l'eau pour vivre dans le sens que nous, les mortels, si on ne boit pas de l'eau pendant quelques jours, on va devenir fou et séché et puis mourir. Hein? Donc ça, il n'y a plus besoin à l'état éternel parce qu'il n'y a plus de mort. Il n'y a que la vie. OK? Il y a une description de la Nouvelle Jérusalem qui est... Oh, je voulais montrer ça, donc... Il y a une petite partie concernant donc, l'arbre de vie, mais il y a beaucoup concernant la beauté de ce lieu. Et donc, il a parlé des 12 fondations qui sont des minéraux différents, diverses. Et il a parlé des portes de la Nouvelle Jérusalem qui sont des perles très grandes. Il a parlé des roues et de la place centrale qui sont faites en or absolument pur et transparent. Les murs aussi, me semble, mais je ne sais plus. Et donc voilà, j'ai mis les divers minéraux. Donc l'idée, ça, c'est qu'il y a plein de couleurs. C'est vraiment un état joli, beauté, d'éclat, tout ce qui est le plus riche qu'on pourrait imaginer se trouve dans la Nouvelle Jérusalem. OK? Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai mis le tableau de ces minéraux. C'est l'état éternel, donc il n'y a pas de fin à cet état. Et nous, on habitera dans la Nouvelle Jérusalem. Alors attention, il dit que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas des pécheurs, etc. OK? C'est pas pour dire qu'en dehors de la Nouvelle Jérusalem, il y a tous ces gens-là. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de faire une affirmation que les pécheurs n'entreront pas au ciel. Les pécheurs seront condamnés aux enfers à la fin du chapitre 20. Donc, évidemment, ils ne vont pas entrer dans la Nouvelle Jérusalem. On n'a pas à nous soucier de la possibilité que quelques malfaiteurs vont quitter l'enfer et entrer dans la Nouvelle Jérusalem et nous voler, par exemple. Vous voyez? C'est ça qu'il est en train de dire. C'est que nous, que les croyants, que les rachetés de la terre, c'est que le bonheur éternel. Il n'y a aucun souci. Amen. Aucune maladie, aucune pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté. Tout est fait en or. Or pur. D'après la description, il n'y a même pas de l'argent. C'est que l'or. Les choses les plus spectaculaires. Et quand on arrive à la fin, donc premièrement, il y a une affirmation, il y a un avertissement de ne pas changer ce qui est écrit dans le livre. On n'a pas le droit a changé la parole de Dieu. Donc c'est vrai que c'est le dernier livre de la Bible, donc on pourrait dire ça, probablement ça veut dire toute la parole. Jésus a dit un iote, un petit point de lettre ne sera jamais perdu de sa parole. Et donc, évidemment, il ne veut pas qu'on... Ah, mais moi, je peux enlever une lettre ici ou là. Non, on ne va pas toucher à la parole de Dieu, ni dans l'Apocalypse, ni ailleurs.
Ça renvoie aussi à Proverbe. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur.
C'est quel proverbe?
Proverbe 36. 30, verset 6.
Proverbe 30, verset 6. Ça dit la même chose. OK? Semblable. OK, donc aussi, à la fin, il y a quand même un appel de l'Évangile. L'esprit et l'épouse disent, viens. Celui qui entend, donc ça c'est par exemple nous, dit, viens, on évangélise. Il y a encore du temps. Alors il y a une partie là que celui qui est juste soit encore juste et celui qui est pécheur soit encore pécheur. Ça veut dire que le moment va venir qu'on sera établi dans notre choix. Aujourd'hui, toute personne peut se convertir. Et s'il ne se convertit pas, il sera établi pour l'éternité dans la misère, dans le malheur. Et Dieu ne veut pas ça, donc il dit, viens, 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 viens. Tous peuvent venir, mais tous ne veulent pas venir. OK? Je pense... que vous êtes peut-être d'accord avec moi dans le sens chronologique du livre. On est parti de l'introduction. On a vu ce qui s'est passé à l'époque dans les églises. On a vu la vision au ciel. On a vu qu'il y a un moment de grande tribulation. On a vu que Jésus va revenir. Il va établir son royaume. Il va condamner le diable et tout méchant. Et il va établir l'état éternel, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'effrayant, je veux dire, de les descriptions incompréhensibles ou effrayantes dans la chronologie du livre? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est assez clair, sans explication, la plupart de ce qu'on a vu. On a quand même un peu de besoin de connaissance d'autres choses dans la parole, mais pour moi, c'est assez clair. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, non? Oui. Donc, c'est vrai que dans le reste, dans les parenthèses, il y a des choses un peu plus complexes et quelques illustrations, des choses comme ça. Et on va voir ça cet après-midi, d'accord? Mais dans la globalité, c'est vraiment assez net, OK? Qu'est-ce que vous avez comme commentaire ou question sur le chapitre 21-22?
Est-ce que tu crois par rapport à l'Apocalypse, allusion à Lazare, et puis tu sais, le riche, quand le riche il disait Lazare, donne-moi un peu d'eau, est-ce que tu crois qu'ils nous verront ou,
Lazare et l'homme riche dans Luc chapitre 16, c'est avant la croix. Donc avant la croix, il y avait Sheol, donc la tombe, avait deux compartiments bien écartés, mais évidemment qu'on pouvait voir ce qui était sur l'autre côté. Et Lazare, qui était un racheté avant Christ, eh bien, quand Jésus est mort sur la croix, Éphésiens dit qu'il est descendu dans les régions inférieures pour déclarer l'Évangile. Et par cette déclaration, il a justifié ceux qui attendaient son arrivée et il a condamné ceux qui n'attendaient pas son arrivée. Donc, ceux qui étaient en attente, il a amené avec lui. Donc, il dit qu'il a amené captifs les captifs. Okay? Il les a amenés au ciel. Donc, cette partie de Sheol n'existe plus parce qu'ils sont au ciel avec Jésus. Tandis que les autres attendent toujours. Donc, on a lu la description dans chapitre 20. Il dit au verset 13, « La mer rendit les morts en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Donc le séjour des morts, c'est là où se trouvait la mort, l'âme riche. Au Sheol, oui. Et ça s'appelle, donc ici, ça s'appelle le séjour des morts, c'est Sheol. Okay? Et puis, par la suite, il dit, puis la mort, donc c'est l'institution de la mort. À partir de ce moment-là, plus personne ne peut mourir, parce que la mort n'existera plus. Okay? Et le séjour des morts, tous les deux furent jetés dans les temps de feu, donc l'institution du séjour des morts, là où, où avait été l'homme riche avant qu'il était sorti pour être jugé. Eh bien, même cette institution-là est mise dans le lac de feu pour ne plus exister, en fait. Donc, dans l'état éternel, autrement ce qui est en enfer, ça ne nous concerne pas. Nous, on est dans l'état éternel de bonheur auprès de Dieu. Et eux, ils sont bien écartés. Il n'y a plus de possibilité de voir ce qui se passe. Nous, on n'aura aucun souvenir néfaste, négative de notre existence avant. Il est probable qu'on va reconnaître Moïse. On a toute l'éternité pour faire connaissance avec tout le monde. Et donc, on va certainement connaître nos bien-aimés, hein, ma femme, mes enfants, ceux qui sont à Dieu. Bon, ils seront là-bas et puis on va dire, ah tiens, peut-être on aura quelques souvenirs de la planète, mais que des bonnes choses et non pas des choses négatives parce que ça invoque le péché. Donc, il n'y a rien qui va invoquer le péché. Donc, on n'aura pas la capacité d'avoir les mauvaises pensées. Donc, c'est limité. Hein? Et le point capital de notre existence, c'est que Dieu nous a rachetés. Et voilà.
Je ne suis pas sûr non plus que ceux qui se voient en enfer puissent même se voir entre eux. De ce que je parle.
Je pense...
Totale rupture de relation avec quiconque, même avec une personne qui est peut-être à côté de lui, mais qui ne voit pas, qui est en total, il est dans sa souffrance éternellement sans relation avec personne en fait.
Oui, je pense qu'on a, cette idée de en dehors et des ténèbres, donc on a une personne isolée, sans contact avec les autres pour l'éternité. Je suis d'accord avec ta pensée.
Rien que d'y penser, ça doit vraiment être affreux déjà. De vivre dans des tourments éternels. On est déjà dans des tourments ici-bas quand on ne connaît pas Dieu, quand on souffre. Il y a des gens qui souffrent plus que d'autres, mais on est bien censé y penser à l'heure actuelle quand on l'étudie, que ça doit vraiment être, ça va vraiment être affreux, quoi. Il vaut mieux vraiment faire le choix de connaître Dieu, parce que...
Voilà, mais c'est Jésus qui a plus parlé des souffrances éternelles, parce qu'il sait ce que c'est. Il ne veut pas que les gens aillent en enfer. Donc, il explique les détails pour que les gens aient peur, qu'ils ne veulent pas ce destin éternel. Donc, il invoque, il demande que les gens se convertissent, que le péché soit effacé et qu'il n'y a aucune raison que Dieu les écarte. Une autre question, observation? Le texte s'explique bien, donc c'est pas qu'on a besoin de tout expliquer, mais il y a peut-être des questions.
La science-fiction pourrait imaginer l'apocalypse déjà sur Terre.
Dans la science-fiction,
il y a des films où il représente la bête.
Il y a eu beaucoup de cas de travail d'apocalypse. Ils sont beaucoup inspirés de ça pour certains films.
On envoie des extraits sans le regarder, mais c'est beaucoup d'imagination.
Oui, les écrivains et les cinéastes peuvent mettre en scène plein de choses, mais déjà le texte biblique, c'est assez explicite, et donc le prospect d'être en enfer, horrible. Donc
c'est un piège.
Ou piège ou pas, ça fait partie du monde. Il y a même des gens qui se tatouent avec 666 et tout ça. Et ça, c'est leur rébellion. Ils disent, ah, mais ça, c'est la marque qui représente, je n'aime pas Dieu. Donc, ils vont mettre ça sur le front ou quelque part. Mais ce n'est pas du tout ce que, dont parle la parole, mais c'est l'esprit quand même. Oui. OK.